pourrions lire dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 15. De Samuel 15, verset 19. Et le roi dit à Ittaï, le Guittien, « Pourquoi viendrais-tu toi aussi avec nous ? Retourne-t'en et demeure avec le roi, car tu es étranger. Et de plus, tu as émigré dans le lieu que tu habites. Tu es venu hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, çà et là. Et quant à moi, je vais où je puis aller, retourne-t'en et amène tes frères. Que la bonté et la vérité soient avec toi. » Mais Ittaï répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant et le roi, mon Seigneur, est vivant, que dans le lieu où sera le roi, mon Seigneur, soit pour la mort, soit pour la vie, là aussi sera ton serviteur. » Et David dit à Ittaï, « Va et passe. » Alors Ittaï, le Guittien, passa avec tous ses hommes et tous les enfants qui étaient avec lui. Et tout le pays pleurait à haute voix, et tout le peuple passait, et le roi passa le torrent du Cédron, et tout le peuple passa en face du chemin du désert. Verset dans 2 Samuel 23. Verset 29, voyons Ittaï, fils de Ribaï, de Giba, des fils de Benjamin. Encore dans 1 Timothée. Timothée, chapitre 6, verset 12, la première partie, combat, le bon combat de la foi. Dans la seconde épître à Timothée, au chapitre 2, verset 3, prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. La parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous parle des croyants comme des combattants. Il y a différents combats. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Colossiens, il est parlé du combat pour l'édification. L'apôtre Paul combattait pour que les assemblées soient édifiées. L'Épître aux Philippiens nous parle du combat pour répandre l'Évangile. C'est un deuxième combat. L'épître de Jude nous parle aussi de notre combat. Je vais lire le verset. Jude, chapitre 3. Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. L'épître aux Éphésiens nous parle aussi de l'armure que doit revêtir le croyant pour combattre. Si on compte la prière, il y a 7 pièces à l'armure et le combattant doit porter l'armure complète pour le combat. Dans l'épître aux Éphésiens, juste une remarque. Il nous est parlé de la cuirasse de la justice. Je ne veux pas détailler les 7 points différents, mais la cuirasse de la justice. Donc l'apôtre décrit un combattant, et sans doute s'est-il inspiré de la tenue des soldats romains qui étaient des envahisseurs de la Palestine. Le soldat romain, il portait une cuirasse, la cuirasse de la justice. Et cette cuirasse avait quelque chose de particulier, c'est que l'arrière de cette cuirasse, c'est-à-dire dans le dos, elle était tenue simplement par des lanières de cuir. C'est-à-dire que la parole de Dieu envisage le combattant comme ne fuyant jamais le combat. Un combattant qui tournerait le dos au combat, eh bien, c'était très facile donc de l'abattre et il était en danger de mourir au combat. Il faut bien saisir que nous aussi, nous avons des combats à mener, différents combats, et ce que nous avons lu en particulier dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 15, c'est l'exemple d'un homme fort, de David, du roi David. Dans l'Ancien Testament, il est parlé de plus de 80 hommes forts de David, au début. Mais à la fin, quand David fait le recensement de ces hommes forts, il n'y en avait plus que 37. Le nombre à la fin est sans doute très significatif. C'était un honneur pour ces combattants, ces hommes forts de David, que à la fin de la vie du roi David, ils soient notés dans la parole de Dieu. Est-ce que nous réalisons que nous sommes des combattants? Dès que nous sommes convertis, que nous appartenons au Seigneur, non seulement nous sommes sauvés, mais le combat fait partie aussi de la vie du chrétien. Combattre pour l'édification, combattre pour la diffusion de l'Évangile, combattre pour la défense de la foi, des vérités chrétiennes. Il y a beaucoup de combats à mener, et donc il est nécessaire de combattre avec cette armure complète. Alors, ce que nous avons lu dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 15, c'est l'histoire courte d'Ittaï, un des hommes forts de David, du roi David. Tous les hommes forts étaient caractérisés par leur dévouement au roi. Et un combattant, un soldat de Jésus-Christ, il a un chef et il doit combattre sous les ordres du chef. Il ne doit avoir aucune initiative personnelle dans le combat. C'est le chef qui est formé, son supérieur, qui va lui dire quelle est sa position, ce qu'il doit faire. Et un bon soldat de Jésus-Christ doit être non seulement dépendant de son maître, dépendant de son chef, mais il faut qu'il soit absolument dévoué à son roi, et il faut que nous soyons dévoués à notre maître Jésus-Christ. On a noté dans le deuxième livre de Samuel que pendant le règne de David, à l'heure de sa prospérité, nombreux étaient les personnes qui affichaient leur fidélité. Mais l'épreuve va montrer la réalité du dévouement de ces personnes à David. Dans le chapitre 15 de Samuel, le roi était âgé et nous voyons qu'il est rejeté et il doit fuir Jérusalem à cause de la révolte d'Absalom, son fils. Le règne de David, à ce moment-là, semblait s'écrouler. Achitophel, qui était son conseiller, son intime ami, avait lié son avenir avec Absalom, l'avait trahi. Maintenant, on dirait qu'Absalom était l'étoile montante qui dérobait les cœurs des Israélites. Et nous voyons au verset 6 du chapitre 15, « Et Absalom dérobait les cœurs des hommes d'Israël. » L'ennemi, il commence toujours comme ça. C'est-à-dire, c'est dérober nos cœurs. Nous avons évoqué ces jours-ci que Christ doit avoir la première place dans nos cœurs. Eh bien, le diable, l'ennemi, il s'emploie à faire une chose, c'est que nos cœurs soient occupés des choses terrestres en particulier. Et il cherche toujours à dérober nos cœurs. Ittaï était un Gittien, il nous est dit au verset 19, c'est-à-dire qu'il était originaire de Gath. C'était une ville des Philistins, et si nous nous souvenons, c'était les Philistins des ennemis de David. Et le géant Goliath, qui avait combattu David au début, eh bien, était aussi un Gittien, était originaire de Gath. Alors ce que nous voyons au verset 19, c'est que cet homme, Ittaï, ne connaissait pas David depuis longtemps. Il semble qu'il était venu le rejoindre la veille, si nous lisons attentivement au verset 18. Et donc c'était un homme, un Philistin, qui veut se joindre à David. Et nous voyons que David ne le force pas. Bien au contraire, il l'avertit du danger qu'il courait et il lui dit même que s'il partait, il en éprouverait aucune rancune. Et ce que nous voyons de remarquable, c'est la réponse d'Ittaï au verset 21. Il répondit au roi et dit: l'Éternel est vivant et le roi mon Seigneur est vivant, que dans le lieu où sera le roi mon Seigneur, soit pour la mort, soit pour la vie, là aussi sera ton serviteur. Ittaï manifeste tout son attachement à la personne du roi David, qui était rejeté, qui s'enfuyait de Jérusalem. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où Christ est rejeté, et de plus en plus rejeté. C'est, nous voyons la montée en puissance de l'apostasie, c'est-à-dire le refus du christianisme, le rejet des vérités chrétiennes. Et Christ est manifestement rejeté. On ne veut pas dire par là qu'il n'y a pas des chrétiens dans beaucoup de milieux, nous ne sommes pas les seuls chrétiens, bien sûr. Mais ce qui brille dans ce passage, c'est l'attachement d'Ittaï au roi David. Est-ce que notre attachement au Seigneur Jésus, est-ce qu'il brille dans notre vie? Est-ce que nous pouvons dire, comme cet homme, l'Éternel est vivant et le roi mon Seigneur est vivant, que dans le lieu où sera le roi mon Seigneur, soit pour la mort, soit pour la vie, là aussi sera ton serviteur. Pour Ittaï, c'était un honneur de suivre le roi David, même rejeté, et il désire se joindre à lui. Est-ce que nous réalisons que aujourd'hui, si Christ est rejeté, c'est un honneur de le suivre, c'est un honneur de se dévouer à sa personne, c'est un honneur de nous attacher à sa personne. Il y a sans doute de tels hommes dans l'armée de Jésus-Christ aujourd'hui. Mais la question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous faisons partie de ces hommes qui sont prêts à s'engager après notre roi David, après Jésus-Christ? Avons-nous un réel intérêt, un réel attachement à suivre le Seigneur Jésus, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés? En hébreu, Ittaï signifie proximité de l'Éternel. C'était un homme qui ne suivait pas David en secret. c'était un homme qui s'était joint à lui et qui avait fait cette déclaration magnifique devant tous ceux qui étaient présents autour. Pouvant avoir tendance et aussi à être des chrétiens plutôt secrets, qui ne s'engagent pas trop publiquement. C'est toujours difficile de s'engager publiquement pour Jésus-Christ. Il y a l'opprobre qui est attaché à son nom. Mais est-ce que nous sommes prêts, comme Itaïe, le Guitien, à nous engager aussi publiquement à suivre notre roi, Jésus-Christ? Et son nom, donc, c'est proximité de l'Éternel. Pour suivre une personne, pour suivre Jésus-Christ, il faut être proche de lui. Il faut avoir cette vie de communion personnelle avec lui. Itaïe, il allait devenir un homme fort, un homme vaillant de David. Et ce n'est que dans la proximité du roi David qu'il pouvait entendre ses ordres. Est-ce que nous vivons dans la proximité de Jésus-Christ de telle manière que quand il nous donne sa direction, est-ce quand il nous donne sa pensée, qu'il nous exprime sa volonté, est-ce que nous l'entendons, est-ce que nous l'écoutons? Itaïe, proximité de l'Éternel. Est-ce que nous sommes proches de Jésus-Christ dans notre vie? Itaïe n'avait pas peur de se montrer aux côtés du roi. Et il n'avait pas honte d'être son serviteur. Et cet homme était prêt à souffrir. Il dit, soit pour la mort, soit pour la vie. Là aussi sera ton serviteur. Personne n'aime souffrir. Mais ce que nous avons lu dans la deuxième épître à Timothée, c'est est-ce que le bon soldat de Jésus-Christ, c'est prendre ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes prêts à nous engager en étant proche du Maître, en étant proche de notre roi entre guillemets, bien sûr? Est-ce que nous désirons vivre dans sa proximité, dans sa dépendance, et combattre le bon combat de la foi à ses côtés? Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, nous voyons que le soldat, le combattant, il n'a aucune force par lui-même, et il faut se fortifier dans la puissance de la force du Seigneur Jésus, et marcher, comme il nous est dit dans le psaume 84, marcher de force en force. Force au singulier et force au singulier. C'est-à-dire qu'une force nous est donnée pour un jour et une autre force nous est donnée pour un autre jour. Le Seigneur ne nous donne pas des forces pour 15 jours. Il nous donne sa force jour après jour. Marcher de force en force. Voyons quand même que le roi David est surpris au verset 22. Il est surpris du renoncement de ce Guitien d'Itaïe. Et il lui dit, il lui fait comprendre que le suivre, c'est un chemin périlleux. Et nous savons que pour David, c'était un temps de déclin, une atmosphère de démission générale, comme c'est le cas aussi aujourd'hui. Mais nous voyons que cet homme, eh bien, il désire le suivre et s'engager après lui. Est-ce que nous désirons nous engager et avoir ce dévouement pour Christ? Donc nous avons lu au chapitre 23, qu'il est cité au verset 39, nous voyons qu'en tout 37, donc il y a eu peut-être certainement des défections. Il y a eu, on connaît l'histoire d'Abner par exemple, il y avait des intérêts personnels qui se mêlaient. Mais voyons que Dieu, dans sa parole, n'oublie aucun de ces hommes forts, de ces hommes vaillants qui ont désiré suivre David. David, le roi David, qui était loin de Dieu et qui a été couronné roi. Si nous lisons encore peut-être un autre homme fort dans 2 Samuel 23, au verset 9, et après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akokite, il était l'un des trois hommes forts qui étaient avec David lorsqu'il avait défié les Philistins qui s'étaient assemblés là pour combattre. Et que les hommes d'Israël étaient montés, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et que sa main demeura attachée à l'épée. Et l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Et le peuple revint après les hasards seulement pour piller. Dans ces deux versets, à propos d'Éléazar, nous voyons que c'était un autre homme fort après Ittaï, et il nous est dit qu'il est, au milieu du verset 9, qu'il était avec David. Il était l'un des trois hommes forts qui était avec David. C'est-à-dire, c'est un combattant, un homme fort, qui combattait sous les yeux de David. Et dans les combats, nous devons avoir conscience que le Seigneur, il nous voit, il nous regarde combattre, et que nous combattons sous ses yeux. Et c'est très important de voir que, de comprendre que si nous combattons sous ses yeux, eh bien nous prenons courage parce que nous sentons sa présence. Et donc Éléazar, hein, il se tenait avec David, sous les yeux de David. On a appelé Éléazar l'homme qui ne s'est pas relâché. Nous voyons qu'il a lutté seul dans ces deux versets avec David pour préserver une portion d'un champ d'orge. Je crois que c'est pas là que ça nous est dit, mais il y a un autre passage, ça ne me revient pas, où il nous est dit que Éléazar, donc, avait combattu à côté de David pour préserver une portion de champ d'orge. Et le champ d'orge, l'orge, c'était une nourriture qui était indispensable au peuple de Dieu. Un combattant qui désirait préserver la nourriture pour le peuple de Dieu. Garder intacte, au fond, la parole de Dieu. Cela veut dire que dans la parole de Dieu, il n'y a pas une vérité que nous devons laisser, qui n'est pas essentielle, mais toutes les vérités sont nous devons les combattre pour toutes les vérités, pour la vérité. Si nous laissons quelque chose, eh bien, un relâchement, nous allons perdre quelque chose, et un peu plus tard, nous allons perdre autre chose. Et Éléazar, donc, avait défié ces Philistins qui s'étaient assemblés là pour combattre. Il se lève et il frappe les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et que sa main demeura attachée à l'épée. Comment combattre pour la défense de la foi? Bien, c'est combattre avec la parole de Dieu. Et voyons que cet homme, il tenait son épée avec fermeté, fermement, et le peuple avait fui, il était seul. Et nous voyons que le peuple revient à la fin du verset 10 seulement pour piller. Est-ce que nous sommes disposés à combattre pour notre roi? Est-ce que nous sommes disposés à combattre pour la foi que nous avons reçue, qui a été enseignée une fois? Est-ce que nous sommes prêts à combattre et ne pas laisser une partie de lâcher une vérité? Nous avons besoin de garder intacte toute la parole de Dieu. Et l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Et le peuple revint après Éléazar seulement pour piller. Nous pouvons profiter quelquefois des combats qu'ont opéré nos frères devanciers. Ils ont combattu au moment du réveil. Ils ont combattu pour la vérité. Ils ne voulaient ne rien lâcher de cette vérité. Pas une partie de la vérité. Et nous sommes peut-être un peu comme ce peuple maintenant qui revient et qui saisit sans trop combattre ceux qui nous ont laissés. Mais il y a toujours un danger, même dans les jours actuels, de laisser quelque chose de la vérité. Et nous avons besoin de garder intacte cette vérité, la vérité. Que Dieu nous accorde d'être des combattants qui combattent sous les yeux de leur chef, dans sa dépendance. Nous avons besoin de recevoir la force qui vient du Seigneur pour dans ces combats, et que Dieu nous garde dans ces temps aujourd'hui qui sont difficiles, et de prendre notre part des souffrances comme de bons soldats de Jésus-Christ.
Juste lire d'abord le passage auquel Michel a fait allusion qui concerne Éléazar, et l'autre passage qui est en 1 Chronique 11 et qui donne donc un autre éclairage sur cette scène. 1 Chronique 11, verset 12. Et après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Akokite, il était l'un des trois hommes forts, il fut avec David à Pas d'Amim. Et les Philistins s'étaient assemblés là pour combattre, et il y avait une portion de champ pleine d'orge, et le peuple avait fui devant les Philistins. Et ils se placèrent au milieu du champ et le sauvèrent, et frappèrent les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Et puis je voudrais revenir sur chapitre 15, qui est dans le sujet qui a été évoqué, qui est très riche. En même temps, dans le contexte de ce chapitre, nous avons David sous le jugement de Dieu. On a beaucoup moins, pour ne pas dire pas du tout, en David, dans ces scènes, littéralement, ce qui concerne David, le type du Seigneur. Mais on retrouve ce type du Seigneur dans l'attachement de tous ceux qui ont suivi David et qui ont reconnu en lui loin de l'Éternel. Et cet attachement nous parle de nouveau et nous montre de nouveau David comme nous parlons du Seigneur. Et je voudrais juste passer en revue rapidement, sans rentrer dans les détails. On a vu Ittaï, et si on va un tout petit peu plus loin, on voit au verset 24 Tsadok et les Lévites qui viennent portant l'arche de l'alliance de Dieu avec Abiathar. Pourquoi ? Parce qu'eux aussi étaient attachés à David. Parce qu'eux aussi avaient reconnu en David loin de l'Éternel. Et ils pensent bien faire en prenant l'arche pour suivre David. Et au verset 25, on voit David qui répond. Le roi dit à Tsadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, alors il me ramènera et me la fera voir, et elle est sa demeure. Et s'il dit ainsi, je ne prends pas de plaisir en toi, me voici, qu'il fasse de moi ce qui sera bon à ses yeux. Et le roi dit à Tsadok, le sacrificateur, n'es-tu pas le voyant ? Retourne-t'en en paix à la ville, et Akimath, ton fils, et Jonathan, fils d'Abiathar, vos deux fils avec vous. Voilà une tâche difficile pour Tsadok et Abiathar. Ils doivent retourner à la ville. Et David est clairvoyant dans ce qu'il ordonne. Leur place n'est pas d'emmener l'arche pour fuir avec David. Non. Leur place est comme témoin de l'Éternel à Jérusalem. Là où il n'y a pas encore de temple, il y a cette tente que David a montée qui abrite l'arche. Leur place est là, parce que c'est là l'endroit que Dieu a choisi où sera construit le temple. Ils vont devoir rester là alors que Absalom va venir occuper Jérusalem et prendre la place du roi. Ils vont être là, demeurer fidèles à l'Éternel, fidèles dans leur cœur, à loin de l'Éternel, devant celui qui veut usurper la place de loin de l'Éternel. Si on continue un petit peu plus loin, paragraphe suivant, là David apprend que Akitophel est parmi les conjurés, et puis on a au verset 32, au milieu, il arriva que voici Hushaï, l'archite, vint au-devant de lui, sa tunique déchirée et de la terre sur sa tête. Et David lui dit, « Si tu passes avec moi, tu me seras à charge. Mais si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, « Ô roi, je serai ton serviteur, comme j'ai été autrefois serviteur de ton père, maintenant aussi je serai ton serviteur, alors tu annuleras pour moi le conseil d'Akitophel. » Et les sacrificateurs, Tsagok, Tsadok et Abiatar, ne sont-ils pas là avec toi? On ne sait pas pourquoi Hushaï aurait été une charge pour David. Était-il âgé? On ne sait pas, on n'a pas le détail, mais voilà. Voilà encore une fidélité difficile à assumer. Par fidélité, il vient poursuivre David. Il a les vêtements déchirés, de la terre sur sa tête. Il montre les signes du deuil. Et qu'est-ce que dit David? Retourne, va vers Absalom. Dis-lui, je te servirai comme j'ai servi ton père. Et si on lit la suite, on ne va pas rentrer dans le détail. Chacun peut le suivre. J'encourage les enfants, les plus jeunes à le lire. On voit que Hushaï a un chemin particulièrement étroit. Être fidèle à David, être fidèle à l'Éternel dans sa fidélité à David, pour annuler le conseil d'Akitophel. Si je lis juste un peu plus loin à propos de ce conseil d'Akitophel, où est-ce que c'était dit avant, je ne sais plus, en tout cas un peu avant ou un peu après, il est dit que le conseil d'Akitophel était comme si on s'était enquis de la parole de l'Éternel. Ça doit être un petit peu plus loin. Bon, on peut le retrouver. Pardon ? 16, verset 23. Et le conseil que donnait Akitophel en ces jours-là était comme si on se fût enquis de la parole de Dieu. Ainsi était tout le conseil d'Akitophel, tant auprès de David qu'auprès d'Absalom. Tâche impossible à l'homme. Tâche possible pour Dieu à travers son instrument. Hushaï allait être devant Absalom comme s'il le soutenait. On peut juste lire les paroles de Hushaï au verset chapitre 16, verset 17, quand il arrive devant Absalom, il dit « Vive le roi, vive le roi !» Et Absalom dit à Hushaï « Est-ce là ta bonté pour ton ami? Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ?» Et Hushaï dit à Absalom « Non, car je resterai avec celui qu'ont choisi l'Éternel et ce peuple, et tous les hommes d'Israël, c'est avec lui que je demeurerai. Et de plus, qui servirai-je? Ne serai-ce pas devant son fils? Comme j'ai servi devant ton père, ainsi je serai devant toi. » Il y a tout un jeu de mots dans les paroles du Chahi pour ne pas mentir, et pour qu'en même temps Absalom soit trompé. Je serai avec celui qu'ont choisi l'Éternel et ce peuple et tous les hommes d'Israël. Qui a choisi l'Éternel? Certainement pas Absalom. Mais voilà une fidélité difficile. Demeurer dans la vérité devant celui qui est l'usurpateur pour annuler le conseil d'Akitophel. On a évoqué, il a été mentionné Jonathan et Akimat, les fils de Tsadok et d'Abiatar. Bon, plus loin, on les verra comment ils ont une tâche difficile aussi dans leur fidélité. Servir de messager. Échapper aux soldats à la solde d'Absalom pour pouvoir prévenir David de ce qu'il doit faire. On a aussi d'autres personnes qui vont avec David. Verset 9, il nous est mentionné Abishai, fils de Tseruya. Je ne m'arrête pas à lire le passage, mais qui n'entre pas du tout dans la pensée de David. Je ne lirai pas dessus, mais je mentionnerai juste encore, on a Joab, qui va rester en apparence fidèle à David. Mais si on tourne quelques pages en arrière, on voit au chapitre 14, verset 31, non, verset 30, Absalom parce que David ne veut pas le faire paraître devant lui, le faire le voir, fait mettre le feu au champ de Joab pour provoquer Joab à venir le voir, pour que Joab se fasse intermédiaire, pour que David accepte de revoir Absalom. Y a-t-il pas chez Joab un esprit de vengeance à l'égard d'Absalom et pas du tout une fidélité à David? Un peu plus tard, quand David sera au bout de son chemin, on verra Joab le trahir pour aller après, le nom m'échappe, le fils de David, l'autre fils de David qui va conspirer contre David. La fidélité et les apparences. Si je mets en parallèle avec Joab un verset de la première épître à Timothée, c'est dans la première ou dans la deuxième, c'est dans la première, chapitre 6, où il est parlé de personnes faisant bien du souci, et où il dit, par exemple, c'est pas exactement le cas de Joab, mais c'est similaire, il est parlé, verset 5, d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est bien abondant dans la chrétienté, d'une apparence de piété, où on estime que la piété est une source de gain, de gens qui se proclament conducteurs, mais qui sont animés par la cupidité, et qui disent servir le Seigneur pour des profits matériels. Un Abishai peut-être, un Joab certainement, c'était pas une fidélité comme ça dit Aïe. Et puis pour terminer sur une autre note, je voudrais nommer une autre personne que nous connaissons, où il faut chercher plusieurs passages pour comprendre ce qui lui est arrivé. Il s'agit de Mephibosheth. Il n'était pas un homme fort. Il ne pouvait pas être un homme fort. Les circonstances de sa vie, de son enfance, de ceux qui l'entouraient, l'avaient fait subir les conséquences de la désobéissance de son grand-père, des limites de l'attachement de Jonathan à David. Et il était percu des deux pieds, incapable de se déplacer par lui-même. Il n'avait pas pu suivre David. Il avait voulu le faire. Et il avait été trompé par son serviteur. Et il était resté à Jérusalem. Et il avait mené deuil tout le temps que David était absent. Mené deuil du départ de David sous les yeux d'Absalom. Voilà aussi un chemin de fidélité difficile. Il était incapable de porter une épée et de combattre. Il avait combattu avec ce qu'il pouvait. Sa fidélité en manifestant extérieurement et dans son cœur son attachement à celui à qui il devait tout. À qui il devait tout. Alors, je trouve assez encourageant de voir cette diversité de manières dont la fidélité peut s'exprimer. Un mot encore juste sur Ittaï. Ittaï nous est dit, alors Ittaï le Gitien, chapitre 15, verset 22, passa avec tous ses hommes et tous les enfants qui étaient avec lui. Au verset 18, il est mentionné les hommes qui étaient venus de Gath. Ittaï était un chef de corps d'armée, un conducteur qui a entraîné avec lui, dans sa fidélité, tous ceux qui l'avaient suivi. Voilà aussi encore un caractère. Sa piété, son attachement au roi, en a convaincu d'autres qui ont suivi le même chemin. Alors dans toutes ces personnes qui ont manifesté leur fidélité et leur attachement pas loin de l'Éternel. On a un encouragement, chacun peut d'une manière ou d'une autre manifester cet attachement. Il y a deux choses dans cette manifestation d'attachement. Il y a d'abord le cœur, ce qu'on a déjà vu avant, la place qu'occupe le Seigneur dans le cœur. Et puis il y a cette proximité qui nous amène à avoir des exercices avec le Seigneur pour reconnaître ce qu'il nous demande, pour entendre ce qu'il nous dit, pour être guidé quant à la manière de lui être fidèle. Où est ma place? Est-ce que ma place est avec David, si on reprend la métaphore de cette scène? Ou est-ce que ma place est comme Tsadok, Abiathar, à Jérusalem, s'occuper des affaires de l'Éternel, de cette tente, de l'arche? Ou est-ce qu'elle est comme Hushaï, dans une place délicate, dangereuse, directement en contact avec celui qui est opposé à David? Est-ce qu'elle est comme Méphibosheth, tenant ferme, manifestant cet attachement dans ce deuil, avec tous les risques que cela comportait pour lui? Voilà, on est appelé chacun, d'une manière peut-être différente l'un de l'autre, de manifester, non pas manifester parce que ce n'est pas la chose importante. La chose importante, c'est de vivre, réaliser cet attachement au Seigneur, cette fidélité à celui qui est rejeté.